Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Dieu a encore un miracle pour vous. Dans Marc chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guéri de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le chef, le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Nous traversons tous à un moment donner ou un autre des moments difficiles dans la vie, des moments d'incompréhension, des moments peut-être de tragédie. Ici, il s'agit de maladie qui vient frapper. Peut-être vous êtes aussi malade comme cette femme qui était malade depuis 12 ans, mais c'est peut-être que vous êtes victime d'une dépression à cause du rejet de votre famille. C'est peut-être que vous avez été licencié et que vous n'arrivez pas à rebondir pour trouver une nouvelle direction. Les épreuves sont nombreuses, elles se multiplient, ça peut toucher notre corps, notre âme, notre esprit. Et j'ai remarqué que lorsque nous sommes touchés dans des épreuves, ça affecte notre morale. Nous commençons à baisser les bras, nous commençons parfois à douter, parfois nous demandons « mais pourquoi Dieu a permis une telle situation ?» Et bien des questions viennent nous percuter. Même certains n'arrivent plus à envisager l'avenir. Quand vous êtes malade depuis longtemps, que les choses ne s'arrangent pas, que vous voyez bien que chaque jour, les problèmes sont toujours là, vous n'arrivez pas à faire de projets et certains tombent même dans la dépression. Et ils lâchent tout, ils abandonnent tout, ils sont découragés. Mais j'aimerais voir avec vous, au travers la parole de Dieu, que Jésus, ce Jésus dont nous parlons, non seulement il a existé il y a 2000 ans, oui, il est mort sur la croix, vous le savez, il a donné sa vie, mais il est ressuscité et il est capable d'accomplir encore aujourd'hui des miracles pour vous. Et c'est pourquoi la pensée que j'ai eue sur le cœur, c'est Dieu a encore un miracle pour vous. Vous pensez peut-être qu'il n'y a pas d'issue, vous n'en sortirez jamais, mais Jésus est là. Il est là, présent par son esprit. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous savons qu'il est là. La première chose que je vois dans ce passage, c'est d'abord la prière de Jaïrus. Qui était Jaïrus ? Jaïrus était un homme connu et estimé. C'était le chef de la synagogue. Donc un homme respecté, un homme qui connaissait beaucoup la parole de Dieu, qui enseignait la parole de Dieu, qui aidait beaucoup les autres. Il aidait beaucoup les autres, mais aujourd'hui, c'est lui qui a besoin d'être aidé. Peut-être c'est votre cas. Si vous aidez beaucoup les autres, si vous vous donnez beaucoup pour les autres, si c'est vous qui portez votre famille, si c'est vous qui donnez sans cesse émotionnellement, eh bien, à un moment donné, vous avez besoin vous-même d'être secouru, d'être aidé. Parce qu'on ne peut pas toujours donner. À un moment donné, on va se vider et on va être épuisé. Et lui qui avait tellement donné, ben maintenant il était dans le besoin et il va venir vers Jésus pour trouver du réconfort. Jaïrus vient vers Jésus, c'est-à-dire la bonne personne. Et nous vous invitons à faire la même démarche. C'est-à-dire la seule personne qui peut vous restaurer, qui peut vous bénir, qui peut vous encourager, c'est Jésus. Bien sûr, il a déjà sa religion. Il est juif. Vous avez peut-être votre religion. Mais au-delà d'une religion, ce que nous avons besoin, c'est d'un sauveur. Quelqu'un qui va intervenir dans notre vie. Quelqu'un qui va changer les situations. Et là, nous arrivons à la personne de Jésus. Qui est Jésus pour vous ? Est-ce que c'est simplement un prophète, un homme bon qui a accompli de bonnes choses autrefois, mais c'était pour l'époque, aujourd'hui, c'est dépassé. Est-ce que c'était juste un saint homme qui a existé ? Eh bien, nous croyons que Jésus est bien plus que cela. Il est le Fils de Dieu et il apporte le salut et la guérison à ceux qui croient, à ceux qui le cherchent, à ceux qui lui font confiance. Jaïrus, vous voyez, il a frappé à la bonne porte, c'est-à-dire il est allé directement vers Jésus. Jaïrus n'a pas peur de s'humilier. Je le vois quand il est dit qu'il se jette à genoux aux pieds de Jésus. C'était impensable pour un chef de la synagogue, c'était quand même un homme respectable, un homme estimé. Il aurait pu être orgueilleux et se dire « mais moi, je ne me prosternerai pas devant Jésus ». Mais il n'a pas eu peur de se prosterner. Vous voyez, Dieu répond aux gens humbles, aux gens qui se prosternent, aux gens qui se mettent à genoux, aux gens qui renoncent à l'orgueil. L'orgueil, c'est certainement une des caractéristiques qui nous éloigne le plus de Dieu. L'orgueil est le péché, bien sûr. Le premier péché qui est venu dans le monde, ce n'est pas avec Adam et Ève. Le premier péché qui est venu dans l'univers, c'est Lucifer, cet ange, on va dire, glorieux, ce chérubin protecteur, qui a voulu se faire l'égal de Dieu et qui, par orgueil, a péché. Le péché a commencé dans le ciel. Et l'orgueil, c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Et si vous êtes orgueilleux, si vous ne voulez pas vous prosterner, si vous ne voulez pas vous jeter aux pieds du Seigneur, si vous ne voulez pas vous humilier, bien, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc, voyez que cet homme, il a été assez humble pour dire « moi, je suis chef de la synagogue, j'ai une statue, je suis connu ». Il connaissait les pharisiens, il connaissait des gens qui venaient à la synagogue, donc il pouvait se dire « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Mais il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur de s'humilier devant le Seigneur. Et ça, en fait, ça plaît à Dieu et déjà, ça le place sur le terrain du miracle. Jaïrus croit que Jésus peut encore faire quelque chose. Vous avez vu sa situation, il a une fille. Alors, d'autres évangiles précisent qu'il avait une fille unique, elle était âgée de 12 ans, gravement malade, pas de solution médicale et sur le point de mourir. Il fallait donc faire vite. Et malgré cette situation quasi désespérée, il croit encore que Jésus peut faire quelque chose. C'est donc Jaïrus a la foi pour croire que Jésus peut tout faire, que Jésus est Dieu. Peut-être votre situation paraît sans issue. En tout cas, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas l'issue qu'il n'y a pas d'issue. Dieu connaît l'issue. Il sait le moyen d'en sortir. Simplement, quand les mauvaises nouvelles s'accumulent, quand on est à l'extrémité, c'est-à-dire elle va bientôt mourir, il faut faire vite. Où en est notre foi à ce moment-là ? Est-ce que nous croyons encore que Jésus va pouvoir faire quelque chose ? Est-ce que Jésus va pouvoir intervenir ? Eh bien, cet homme, lui, le croit. Mais arrive une deuxième personne qui est la femme à la perte de sang. C'est le deuxième élément du récit. Cette femme, a une foi remarquable. Elle a connu d'abord une très longue maladie. La Bible dit qu'elle était malade depuis 12 ans. Je ne sais pas si c'est le cas de quelqu'un, mais quand on est malade depuis 12 ans, qu'on a fait plusieurs médecins, qu'il n'y a pas d'issue, eh bien on est affecté, on n'a pas de projet, on est malheureux parce que la maladie est toujours là et on voit pas l'avenir. Et le texte dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et ça, c'est un détail important parce que ça veut dire qu'il y a eu des personnes qui lui ont parlé de Jésus. Ça veut dire que votre témoignage, il est très important. Et que par votre témoignage, si vous parlez de Jésus à quelqu'un, de ce qu'il a fait pour vous, eh bien cette personne peut aussi faire la démarche de se tourner vers le Seigneur et de rencontrer Jésus. Donc chaque témoignage a une valeur très importante. Cette femme, en fait, a commencé à croire à la suite d'un témoignage. Donc ne négligeons pas de témoigner, parlons du Seigneur à l'occasion, à des collègues, à de la famille, à des connaissances, et parlons de ce que Jésus a fait pour nous. Et en entendant ce témoignage, elle a commencé à croire et elle a dit « Mais ce que j'ai entendu là, je veux le voir de mes yeux. » Et elle a dit « Il faut que je trouve Jésus, et si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » C'est une foi un peu simple, on peut dire que c'est une foi enfantine, mais c'est la foi qui plaît à Dieu. Une foi simple, une foi vraie, simplement faire confiance. Quelquefois, on me dit, mais vous êtes pasteur, je ne pourrais jamais croire comme vous. En réalité, tout le monde peut croire. Il suffit de faire confiance à Dieu. Déjà, vous faites confiance à plein de personnes que vous ne connaissez pas. Sans le savoir, par exemple, si vous prenez l'avion, vous faites confiance que le pilote, il va conduire correctement, il va prendre son envol correctement et qu'il n'y aura pas de problème. Vous faites confiance à des tas de gens que vous ne connaissez pas. Quand vous prenez la route, quand vous montez dans un bus, vous faites confiance que le chauffeur de bus va vous mener à bon port. Quand vous allez au restaurant et que vous prenez de la sauce, vous faites confiance qu'il n'y a pas de poison dans la sauce. Mais vous ne savez pas tous les gens qui ont fait tous ces plats, vous ne les connaissez pas, mais vous faites confiance. Mais cette confiance, en fait, il faut nous apprendre à la placer en Dieu. Et là, ça devient la foi. Quand vous commencez à croire en Dieu, à croire ce que Dieu fait, plutôt que de simplement avoir une croyance vague, mais de commencer à faire confiance à celui qui est tout puissant, c'est-à-dire à Dieu, là, les choses commencent à changer. Et c'est ce qu'a fait cette femme. Elle a commencé à faire confiance à Jésus, elle a commencé à mettre sa foi en lui, et alors qu'elle touche le bord de son vêtement, la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus, il a senti une force qui était sortie de lui et il s'est exclamé « Mais qui a touché mes vêtements ?» Or, il y avait beaucoup de gens qui pressaient Jésus, qui le touchaient. C'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de s'approcher de Jésus. Vous pouvez très bien vous approcher de Jésus sans la foi. Mais ce qui a déclenché la guérison de cette femme et le fait qu'une force est sortie de Jésus, c'est parce qu'elle avait cette foi simple. Et en s'approchant de Jésus, donc elle a touché le bord de son vêtement, mais avec foi, tandis que d'autres touchaient aussi le vêtement de Jésus, mais sans la foi. Et Jésus a senti qu'une force est sortie de lui, et il cherchait, mais quelle est cette personne qui m'a touché? Elle était différente de ceux qu'il avait touchés sans la foi. C'est cette femme qui venait avec le besoin d'une guérison. Cette femme, donc, a eu la foi pour croire que Jésus pouvait la guérir. Bien, ce matin, vous pouvez croire. Alors, peut-être, on ne voit pas Jésus aujourd'hui. On ne le voit pas avec nos yeux. Mais nous savons qu'il est là et nous pouvons toucher par la foi le bord de son vêtement, mais d'une manière toute simple. Et Jésus lui dit, au moment où elle se dévoile, « Oui, c'est moi », Jésus lui donne cette parole, « Ta foi t'a sauvée ». Comme quoi, elle a bien fait de faire ce pas de foi, de toucher le bord de son vêtement. En fait, sa vie va changer à partir de ce jour, c'est-à-dire qu'elle va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle va être sauvée et pardonnée de ses péchés, tout simplement parce qu'elle a cru en Jésus. La foi, ce n'est pas une vague croyance. Vous savez, il y a des gens qui se disent croyants. Je discutais encore avec quelqu'un qui me disait « Je suis croyant, mais non pratiquant ». C'est un petit peu comme si vous disiez « Je suis boulanger, mais je ne fais pas de pain ». Vous voyez, ça n'a pas de sens de dire « Je suis croyant, mais non pratiquant ». Ou « Je suis sportif, mais je ne fais jamais de sport ». Ce sont des contresens, on le comprend bien. Et quand on dit « Je suis croyant, mais non pratiquant », c'est qu'en fait, on n'est pas vraiment croyant non plus. Qu'on croit en théorie. Un jour, il y a un missionnaire comme ceci qui était parti annoncer l'évangile derrière le rideau de fer. À l'époque, il y avait tout l'Empire soviétique. Et il cherchait des croyants, et en Slovaquie, il trouve un enfant, et il lui demande, est-ce que tu crois? Et l'enfant lui dit, ben oui, moi je crois. Ah, le missionnaire était tout content, parce qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui croit dans le pays. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu crois? Il dit, l'enfant répond, ben je crois tout ce que mon père croit. Ah, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il croit, ton père? Ben, il dit, mon père, il croit tout ce que le prêtre dit. Ah, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il dit, le prêtre? Et l'enfant répond, ben, ça, personne n'en sait rien parce qu'on ne va jamais à l'église dans la maison. Donc, vous voyez, c'est le genre de croyance superficielle. Des gens qui croient, mais qui n'ont pas de réelle profondeur dans leur foi. Or, ce que nous vous annonçons, c'est Jésus qui est mort à la croix, qui a été crucifié. Simplement par la foi dans ce sacrifice, vous pouvez être pardonné et lavé de vos péchés. Si vous croyez en Jésus, je ne dis pas si vous croyez en ce que votre père dit, entre ce que le prêtre dit ou le pasteur dit, mais entre ce que la parole de Dieu dit, si vous le recevez dans votre cœur et si vous le croyez, alors votre péché sera effacé. D'ailleurs, il n'y a pas de médicament qui peut anéantir le péché. Il n'y a pas de produits, même les produits les plus forts, les produits chimiques les plus puissants ne pourront jamais enlever le péché d'une âme. Mais le péché, il commence à faire son œuvre dès la naissance. Nous sommes tous nés pécheurs. Et il est en train de nous détruire. On peut prendre l'image du cancer. Quand quelqu'un a un cancer, petit à petit, elle est détruite de l'intérieur. On arrive à le détecter avec un scanner et on dit « Ah, attention, vous avez un cancer, il va falloir vous faire de la chimiothérapie. » On arrive à traiter parfois certains cancers. Mais le péché qui est dans l'âme, c'est une sorte de cancer spirituel. Et ça fait que ça nous sépare de Dieu. Mais le problème, c'est que si on ne règle pas ce péché, on est condamné à la mort éternelle. Si on meurt, si on quitte cette terre, on est séparé de Dieu pour toujours. Et le seul antidote qui nous a été donné, il y en a un, c'est que Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés. C'est le seul antidote, c'est le seul chemin, c'est le seul moyen d'être pardonné. C'est pour ça que cette femme a fait le bon choix. Elle est venue à Jésus, elle a été pardonnée. Jésus lui dit, « Femme, ta foi t'a sauvée. » Elle a cru, elle a été pardonnée. Une fois que cette femme a été guérie, ça a pris quand même un certain temps. Jésus a parlé avec elle, il s'est arrêté, etc. Je vous rappelle que Jésus était en route pour aller guérir une petite fille qui allait mourir. Mais ça a pris tellement de temps que des gens viennent de la famille de Jaïrus pour lui dire « N'importune plus le maître, Jésus, ce n'est plus la peine qu'il vienne dans la maison, ta fille est morte. » Jaïrus a certainement été déçu par cette situation parce qu'il avait réussi à obtenir la grâce de Jésus qui allait venir chez lui. Il savait que sa fille était vraiment dans un état grave, c'était une urgence. Je ne sais pas si vous allez aux urgences par exemple. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête et une autre personne qui arrive parce que son bras est coupé, il saigne, lequel on va soigner en priorité? La personne qui perd son sang, on va essayer de sauver sa vie. C'est les urgences. Dans le cas de figure qui nous concerne, une petite fille est sur le point de mourir, il faut donc la traiter très rapidement, et une autre dame est malade depuis 12 ans, mais on peut dire qu'elle n'est pas à une heure ou deux heures près, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Elle pourrait bien attendre 2-3 heures même, le temps qu'on s'occupe du premier cas. Or, Jésus fait l'inverse, ce qui serait impensable dans des urgences, comprenez? La personne qui va s'occuper de celui qui a mal à la tête et qui laisse celui qui saigne mourir. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Jésus prend du temps pour une personne qui n'est pas en urgence et il laisse une urgence de côté. Donc, dans le cœur de Jaïrus, il pouvait se poser des questions parce que quand la mauvaise nouvelle arrive, ta fille est morte, lui qui avait mis quand même tout son espoir en Jésus, il peut être un peu déçu et se dire, ben, voilà, Jésus avait dit qu'il viendrait guérir ma fille, il n'est pas venu, son espoir est anéanti. En plus, il n'était pas loin du but. En plus, cette femme est venue interrompre Jésus dans sa marche. Moi, je me suis mis un peu à la place de Jaïrus, j'imagine ses sentiments de se dire, mais quand même, ça pouvait attendre. C'est vrai que ça pouvait attendre, ce n'était pas urgent cette femme. Quand même, j'avais dit à Jésus de venir plus vite. Il a pris du temps, il a perdu du temps avec cette femme et ma fille est morte. Moi, si je me mets à la place de Jaïrus, quelque part, je serais déçu. Je serais déçu que Jésus ait fait ce choix. Mais il ne le sait pas encore, cet homme, quand il apprend cette nouvelle, ta fille est morte. Il ne le sait pas encore, mais Jésus a encore un miracle pour lui. Il va la découvrir. C'est le quatrième élément, c'est la foi dans le miracle. C'est dans Marc 5, 36. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, donc ta fille est morte, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Et là, ça va être le tournant pour Jaïrus. C'est intéressant parce que Jésus ne tient pas compte de ses paroles. Ses paroles sont donc négatives. Ta fille est morte. Il y a peut-être des paroles qui vont vous détruire, des paroles qui sont semées sur votre vie. Tu ne réussiras jamais, tu ne t'en sortiras jamais dans la vie, tu ne trouveras jamais de travail, tu ne te marieras jamais. Il y a des paroles comme ça qui sont des semences de mort. Mais en plus, ces paroles, elles viennent de ses proches. Ce sont les gens de sa famille, de son entourage qui viennent dire « Ta fille est morte, c'est plus la peine, n'importune plus le maître. » Peut-être c'est dans votre propre famille qu'il y aura des paroles mauvaises, des paroles de découragement, des paroles négatives. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne ? Il nous enseigne à apprendre à ne pas tenir compte de certaines paroles. Sans tenir compte de ces paroles. Il y a des paroles négatives. Il y a des paroles sur votre vie qui sont pour vous anéantir. Ne tenez pas compte de ces paroles, mais nourrissez votre cœur de la parole de Dieu. C'est ce que va faire cet homme. Il va se nourrir de cette parole. Ne crains point, crois seulement. En fait, qu'est-ce que fait Jésus ? Il lui dit de sortir de son esprit les mauvaises paroles. Ta fille est morte, c'est plus la peine. Jésus ne fera rien pour elle. Et il fait rentrer dans son cœur la bonne parole de Dieu. Ne crains point, crois seulement. Si nous faisions cette simple attitude, quand nous avons des mauvaises paroles, sortons-les de notre esprit et allons chercher dans la parole de Dieu les paroles qui sont pour nous, pour notre âme, pour notre cœur, et mettons-les dans notre cœur. Et vous allez voir que ça va nous encourager. La parole de Dieu est une force. La parole de Dieu nous donne de résister. La parole de Dieu va nous relever dans les moments difficiles. J'ai remarqué un petit détail, mais c'est souvent comme ça, et avec le Seigneur, on n'a pas tous les éléments à l'avance. Parce que nous, on aime bien savoir qu'est-ce qui va se passer après. En fait, en réalité, sa fille est morte. Il est donc atteint par cette tragédie. Et en même temps, Jésus lui dit simplement une parole. « Crois seulement ». Mais il ne lui dit pas ce qu'il va faire. Jésus sait qu'il va la ressusciter. Jésus a toujours un temps d'avance. Sauf qu'il lui dit simplement « crois seulement » sans lui dire qu'est-ce qui va se passer. Et c'est dans ce moment de tension entre la parole qui nous est donnée, « fais-moi confiance, crois dans la parole de Dieu, crois dans le miracle » et le moment où Dieu va agir, c'est dans cette zone-là que nous sommes éprouvés le plus. Parce que nous devons juste tenir avec une parole et nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu va faire exactement. Nous devons juste avoir cette parole dans notre cœur. Et c'est ce que va apprendre Jaïrus. Dès que Jésus arrive sur le lieu où la petite fille est morte, il y a donc ces gens qui pleurent, ces gens qui font les deuils comme en Orient avec beaucoup de cris, des lamentations, etc. Mais Jésus a une autre parole encore qui surprend. Il dit, mais cette enfant n'est pas morte, elle dort. Elle dort. Pour Jésus, elle dormait. Mais pour la plupart, tout le monde, elle était morte. Mais pour Jésus, simplement, elle dort. Ça, c'est une parole de foi, car Jésus se tient vraiment sur le terrain de la foi. Faites confiance au Seigneur. Et si vous faites confiance au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera des paroles de foi qui sortiront de votre bouche. Des paroles de foi. Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous. » C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur Jaïrus qui a reçu la parole de Jésus en lui. Cette parole doit demeurer en nous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et là, nous rentrons sur le terrain de la foi. Mais parce qu'il y a la communion avec Christ, parce qu'on a sorti de notre esprit toutes ces paroles négatives, ces paroles vaines qui ont été proférées sur notre vie, qu'on y a mis la bonne parole de Dieu, alors nous sommes en communion avec Christ et nous sommes sur le terrain de la foi. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous avez des paroles de foi, comme Jésus, ne craignez rien, elle n'est pas morte, elle dort. La Bible dit que les gens ne comprenaient pas, mais de quoi il parle? Elle est morte. Pourquoi il dit qu'elle dort? Ben, vous ne serez pas toujours compris si vous avez des paroles inspirées, des paroles de foi. Jésus donc a fait sortir tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait sortir les incrédules, il a fait sortir les moqueurs, ceux qui ne voulaient pas croire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il crée un climat d'insécurité. Il crée un climat de doute. Et vous ne pouvez pas prier avec des personnes qui ne croient pas, avec des personnes qui doutent, avec des personnes qui ne veulent pas croire dans le miracle. Donc il les a fait sortir, bien que c'était des proches, c'était des amis de la famille, il les a fait sortir tous. Et il a pris juste les parents, donc le père, la mère, Pierre, Jacques et Jean, trois disciples, et il a dit, nous allons prier. C'est-à-dire, on s'associe avec des personnes de foi pour prier pour la personne qui est morte. Et à certains moments, nous devrons faire le même choix. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui sont négatives, qui ont une influence négative sur vous parce qu'elles se moquent, parce qu'elles sont incrédules, parce qu'elles ne veulent pas de Dieu, parce qu'elles vous dénigrent dans votre foi. Bien, vous ne pourrez pas être en communion avec ces personnes et grandir avec le Seigneur. À un moment donné, il faudra faire un choix, mettre de côté ces personnes, chercher des Pierre, des Jacques, des Jean, c'est-à-dire des hommes et des femmes de foi qui croient tout simplement dans la parole de Dieu et prier avec eux. Associez-vous avec des personnes de foi et vous allez voir l'œuvre de Dieu se faire. Jésus donne une parole toute simple à la jeune fille. C'est de l'hébreu « Talita kumi ». Ça veut dire en français « Jeune fille, lève-toi ». Sa parole est si puissante que sa parole va recréer la vie dans la personne morte. Vous allez dire « c'est pas possible », mais à Dieu tout est possible. Par sa parole, Jésus a créé l'univers. L'univers, c'est pas possible que ça soit créé tout seul comme ça. Mais la parole de Jésus a permis que l'univers existe. Vous voyez un petit peu la parole de Jésus ce que c'est. La parole de Jésus calme la tempête quand il y a la tempête. La parole de Jésus change de l'eau en vin. La parole de Jésus chasse les démons. La parole de Jésus ressuscite les morts. Donc la parole de Jésus, elle est toute puissante. Elle est efficace. Une parole de Jésus pour vous peut changer votre vie. On va prier quelques instants et j'invite Delphine à venir. La parole de Jésus peut apporter la vie. Là où il y a la mort, mais c'est peut-être une mort spirituelle qui est dans votre âme. Même si vous êtes vivant physiquement, en fait, vous êtes comme mort spirituellement. Vous n'avez plus goût à la vie. Vous n'avez plus d'avenir, plus d'espoir. Et je dirais que la parole de Jésus apporte l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. De même que cette petite fille a été ressuscitée alors que tout était mort en elle. Et moi, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, il y a encore un miracle pour vous. Il y a encore un miracle pour vous. Jaïrus aurait pu rentrer chez lui déçu en disant « Dieu n'a pas agi pour moi, il a guéri cette femme. » Il a guéri cette femme à la perte de sang, mais il n'a pas guéri ma fille. Il aurait pu rentrer chez lui déçu et même pas chercher de solution. Mais en fait, Jésus l'arrête et dit « Non, ne crains point, crois seulement, il y a encore un miracle pour toi. Ne soyons pas jaloux si quelqu'un est guéri, frères et sœurs. » En disant « Mais lui, il a été guéri et pas moi. » Dieu est intervenu dans sa vie et pas dans la mienne. Et puis on commence à se plaindre et on commence à juger et on commence à se lamenter. Mais rappelons-nous plutôt que Dieu agit en son temps et qu'il a encore une bénédiction en réserve pour nous. Il y a un temps de Dieu. Jésus aurait pu parfaitement guérir la petite fille avant la femme à la perte de sang, mais il a choisi l'inverse. À un moment donné, il y a un temps de Dieu qu'on ne peut pas choisir. Nous, c'est le temps que Dieu choisit. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mais simplement, ce que je sais, c'est qu'avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Ne pensez pas ce matin, c'est trop tard pour moi. Ou comme quelqu'un me disait, moi, je suis trop rempli de péché. Oh, pour moi, il n'y aura pas de solution. Parce qu'il y a toujours un avenir, il y a toujours une solution pour ceux qui veulent bien croire. J'aimerais prier pour vous. Merci Seigneur d'étendre ta main bénie sur celui ou celle qui est venu ce matin chargé, fatigué ou lassé de la vie, peut-être mort spirituellement, séparé de toi, il sent bien que sa vie est sèche, morte, désespérée. Mais je vous le dis de la part du Seigneur, il y a encore un miracle pour vous, il y a encore une bénédiction en réserve, il y a encore une main tendue pour vous, que Jésus ne vous a pas oublié, que Jésus ne vous a pas laissé de côté. Et peut-être vous, dans votre cœur, vous êtes amer, vous jugez parce que Dieu n'est pas intervenu, comme pour Jaïrus, et la petite fille est morte, et pour vous c'est terminé. Vous ne voulez plus en entendre parler, mais Jésus vous tend la main encore une fois et vous dit qu'il peut encore faire renaître ce qui est mort, il peut encore redonner vie à ce qui est mort et redonner un nouvel espoir quand il n'y a plus d'espoir. Alors j'aimerais tout simplement prier pour vous, Seigneur, bénis celui ou celle qui a besoin de ta grâce ce matin, afin que tu fasses une œuvre puissante dans sa vie et qu'il puisse ressortir de ce lieu avec la vie de Christ, avec cette parole implantée dans son cœur, que Dieu est toujours le Dieu du miracle, que Jésus sauve encore aujourd'hui, que Jésus guérit encore aujourd'hui, que Jésus est capable de tout transformer. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.